Shalom, assalam alaikum. Nous sommes le mercredi 13 septembre 2023. Il sonne 11h, passé légèrement de quelques instants. Et nous sommes heureux de nous connecter avec vous par le biais du Club de la Presse. Cette chaîne qui se diffuse sur Canal FM à Lomé ici, mais également Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix, la voix du plateau à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Baganiamtougou, Radio Daoula Bassa, Radio Courtoisia Dapan, mais par le monde entier, par les radios numériques, Radio Gamélé et Bonne Radio, les applications Canal FM et même par la chaîne YouTube. C'est la chaîne informationnelle du Club de la Presse, mise en ligne par les techniciens Vitogbe Kokou Michel Toubenga et Jérôme Kodjo Akoucha. Aujourd'hui, nous parlons naturellement de santé, hein, par l'apparition de santé et éducation. Également, le marché du bien-être et de la santé qui entre dans sa phase active à partir d'aujourd'hui. D'autres articles de journaux, notamment comment nos dames peuvent faire la télé-échographie depuis quelques jours au Togo. Oui, c'est une réalité. Et puis l'actualité sociopolitique, c'est la recomposition du gouvernement qui revient en force dans l'apparition des journaux, mais également d'autres informations comme l'Office togolais des recettes qui vient de tenir un séminaire d'orientation, mais l'OTR également qui a partagé ses performances en termes de recouvrement de taxes et impôts pour les huit premiers mois de l'année. La rentrée diplomatique qui a été opérée il y a quelques heures, pendant que la rentrée scolaire également se prépare. Je sais que beaucoup de parents se grattent la tête, mais courage, vous allez vous en sortir. La pensée du jour pour nous inspirer, c'est Jonathan Swift qui a écrit que « Avouer qu'on a eu du tort, c'est prouver modestement qu'on est devenu plus raisonnable. » Encore une fois, « Avouer qu'on a eu tort, c'est prouver modestement qu'on est devenu plus raisonnable. » Je sais compter sur vous. Je sais que vous êtes bien raisonnable aujourd'hui. Basile Anna Mignake, bonjour.
Bonjour, Innocent. Bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices de la radio Canal FM.
Le grand PDG du groupe Santé Éducation qui est venu nous parler du marché du bien-être de la santé. Tu confirmes que le Mambest entre dans sa phase exécutif, effective à partir d'aujourd'hui?
Oui, bien évidemment, Innocent. Mabès commence effectivement aujourd'hui.
Nous allons en parler également. Sylvestre Béni Kokou, bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous.
Toujours plus raisonnable au jour le jour.
Toujours.
C'est ça.
C'est bien ça.
Même chose avec Fabrice Patton-Petchesi, bonjour.
Bonjour à toi, Sass. Bonjour aux confrères ici présents. Bonjour également à tous ceux qui nous écoutent en ce moment.
Et la voix qui éclaire vraiment ce studio, non seulement par la voix, mais partout. Devinez, c'est Estelle Koudjonou, bonjour.
Bonjour Sasso, bonjour aux confrères en studio, j'oublie pas les techniciens, bonjour également aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
Toujours plus gazelle que jamais.
Si tu le
en
dis.
En tout cas, non, c'est pas, je le constate et ceux qui nous regardent par YouTube le confirmeront. Alors, très rapidement, Basile Mignake, comme santé et éducation, l'écrit aujourd'hui à la page 6, la cinquième édition du marché du bien-être de la santé au Togo, c'est à partir de ce jour jusqu'au 17 septembre, pour dire toute la semaine. Mais le lancement de ce cinquième marché a été déjà fait il y a quelques jours.
Oui, tout à fait, Innocent. Ce marché, pour ce lancement, nous avons eu l'idée, l'ingénieuse idée d'une ministre vraiment qui a quitté le gouvernement, qui nous a dit que non, qu'il faudrait qu'on sorte de l'ordinaire, qu'on aille sur le terrain. Et nous avons choisi le marché d'Assiyeye, Agouassiyeye, où nous sommes transportés
dans la commune
Agouassiyeye 1 et mairie 1 aussi. Donc, je profite, Innocent, si vous le permettez, de remercier une personnalité aujourd'hui qui est ministre, qui a été active dans la préparation, dans l'organisation, dans l'accompagnement et dans la réalisation de cet événement, que je nomme monsieur le colonel Rodabalo Awate, qui est aujourd'hui ministre. Je pense que là où il serait aujourd'hui, il continuerait à nous soutenir dans notre lancée. Et donc, innocent, c'est-à-dire que notre mission, c'est de faire sortir la population de cette ornière. C'est-à-dire que très souvent, à 90%, nous allons dans les formations sanitaires au moment où nous ne pouvons rien faire. Alors que si très rapidement on arrive à nous diagnostiquer, c'est-à-dire que le diagnostic est prononcé le plus tôt, là, il y a une prise en charge et on s'en sort mieux guéri. Et donc, le marché du bien-être et de la santé, c'est un marché de la prévention aujourd'hui. Donc, nous étions partis vers ces mères, vers ces mamans où les résultats ne nous ont pas donné tort, innocent. Sur les 101 personnes dépistées, 11 ont leur glycémie élevée et 7 ont une hypertension aussi très élevée. Donc, et dans tout ça là, 93 sont en surpoids. Est-ce que vous voyez?
Au marché d'Agoyasiyeye.
Voilà. Donc, ce qui nous donne raison qu'aujourd'hui, il faut rester dans la prévention, dans l'éducation, pour accompagner les agents à prononcer vite ces pathologies pour les prendre en charge. Et donc, aujourd'hui, le marché commence, comme nous l'avons dit, au marché, sur le terrain de Toti, le terrain municipal de Toti, oui. Derrière la maison d'Adebayor. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a
plutôt
cette mobilisation.
Devant le siège de santé et éducation.
Tout à fait. comme c'est la star connue mondialement.
Non, santé
et
éducation également est une star.
Oui, santé et éducation. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous allons décorer les exposants, les acteurs engagés dans ce processus.
Eh bien, concrètement, qu'est-ce qui va être fait sur le terrain de Toti pour la cinquième édition du MABES?
Oui, concrètement, ce qui se fera, c'est qu'il y aura une consultation. Pour cette année, la consultation sera assurée par le CHU Campus de Lomé que vous connaissez ici. Et les dépistages de l'hypertension, de la glycémie, de la connaissance de l'IMC vont être assurés par la DPS. L'indice de masse corporelle,
oui.
C'est-à-dire que le poids sur la taille au carré. Mm-hmm. Donc, c'est ça aussi qui montre qu'on n'est pas en bonne santé. Parce que lorsque tu as le surpoids, le cœur fonctionne mal. Et donc, il y a de ces petites connaissances-là que nous devons avoir. Innocent, aujourd'hui, le cancer se guérit à 90%. Si très tôt, on se connaît, on se lance dans la prévention, on enlève le module et puis la personne se retrouve en bonne santé.
Donc la règle d'or, c'est consulter à temps, dépister à temps tout germe de maladie et se donner plus de chances d'en guérir.
Évidemment, innocent, parce que les chiffres sont afférents aujourd'hui. Parce que depuis 2005, le taux de l'hypertension, le taux de diabète ne fait que exploser. Mm-hmm. Donc il y a de quoi de se mobiliser, raison pour laquelle aujourd'hui, on remercie aussi le ministère de la Santé qui aussi nous écoute et qui nous accompagne dans cette mission-là, qui est la mission de quoi ? D'éduquer et de prévenir en même temps par les actes de dépistage sur le terrain. Il faut dépister.
Les gens doivent connaître le consulter à temps, dépister de façon précoce les maladies. Alors pour revenir au MABES, et tu l'as dit, il y aura des consultations, des dépistages. Est-ce que c'est gratuit, les consultations,
oui, les consultations et les dépistages sont gratuits. Mm-hmm. Pour cette année même, on a mis en exergue la couche jeunesse. Il y aura la jeunesse qui est hyper active. Si vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils sont en train de partager, ils sont en train de se mobiliser pour échanger avec les professionnels de santé sur le
et sur, ceux sur qui le auront été dépistés positifs pour telle ou telle maladie, est-ce que le MABEST prévoit une prise en charge?
Non, c'est-à-dire qu'il y a les prestataires qui sont là. Innocent, l'essentiel est qu'aujourd'hui, on doit connaître notre état de santé. Mm-hmm. Ça, c'est le premier atout. Là, le reste, on peut chercher les acteurs de la prise en charge, on peut orienter, on va conseiller, surtout conseiller. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dépisté, je pense que vous allez prendre conscience aussi à ce niveau-là. C'est ça qui est important.
Merci, Anam. J'ai un vieil oncle qui aimait dire, il sait qu'il va mourir, mais au moins il veut savoir de quoi il va mourir. Si nous faisons dépister à temps, nous savons les maladies que nous traînons, et nous pourrons savoir donc où nous diriger pour la prise en charge. Donc le MABES, c'est donc le marché du bien et de la santé, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 septembre prochain sur le terrain de Tochi, soit devant le siège de santé et éducation ou derrière la maison d'Adébayo. Chacun se retrouve.
Ouais, je peux ajouter, convie, c'est-à-dire que Innocent, permettez-nous aussi, je pense que les confrères aussi sur nos plateformes ont lancé cet appel. Nous convions massivement nos populations de venir se faire dépister, de venir se faire consulter.
Voilà. Ceux qui nous écoutent savent où se diriger pour se faire dépister.
La meilleure pédagogie, comme vous le dites très souvent,
La répétition. Alors, on va continuer rapidement avec ces 7 règles d'or pour une bonne santé. C'est santé, éducation aujourd'hui. C'est des choses que nous rappelons souvent, que nous rappelons encore aujourd'hui. Limiter au maximum la viande rouge. Alors, les amateurs, les experts de Tchatchanga se sont informés. Santé éducation nous recommande de limiter au maximum la viande rouge, surtout à partir d'un certain âge. Consommer les bonnes graisses, reconnaître les bonnes graisses des mauvaises, et puis manger des fruits et des légumes par jour, boire de l'eau chaude, ou encore réduire la consommation du sucre, du sel et de l'alcool, faire régulièrement du sport, et puis entretenir la bonne humeur. Gadiel Kokou Tchonyadi, bonjour.
Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin, auditeurs, auditrices.
C'est cette règle d'or que vous nous rappelez pour la énième fois.
Absolument, vous savez, pour avoir la santé, il y a des règles. Et l'une des règles, c'est l'alimentation, c'est l'hygiène de vie. Et très souvent, on en parle, mais on a la connaissance, mais la pratique est des fois compliquée. Donc, on rappelle cela encore, les 7 règles pour la bonne santé, surtout au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, le sommeil, la bonne humeur, c'est absolument important. En tout cas, tout cela, on va revenir sur cela pendant la 5e édition du MABES.
Merci toujours pour la table. Une certaine éducation nous rappelle les aliments à indice glycémique élevé et risque pour la santé, c'est la page 3, ou d'autres articles qui vont intéresser les hommes et les femmes, surtout en ce temps de fraîcheur, c'est les fruits et les épices pour appétit et désir sexuel. On n'en parle pas trop. Les hommes et les femmes.
L'article est clair là-dessus. C'est un article pour les couples à lire ensemble.
Qu'est-ce qu'on va chercher encore dehors s'il fait frais et qu'on a consommé des fruits et des épices qui nous mettent en bonne condition? Mais attention, c'est pour les mariés, à l'état civil, à l'église ou de toute façon par convenance.
Absolument.
On va terminer rapidement avec ce qui peut nous arriver aussi, à savoir quand il arrive que la circulation à destination ou en provenance des pieds ralentit et que le sang commence à s'accumuler dans de nombreux vaisseaux sanguins répartis le long des orteils, des talons et des chevilles. Alors, la conséquence, l'effet visible, c'est les pieds enflés et c'est un signe qui alerte sur notre santé.
Absolument, vous savez ça, c'est les pieds enflés. C'est un symptôme qu'on ne doit pas négliger quand nous sommes à la maison, quand nous voyons quelqu'un de la famille. Quand les pieds s'enflent, c'est qu'il y a un problème profond au niveau de l'organisme. Il arrive que ce soit occasionnel, mais ce dont nous parlons, les pieds s'enflent et ils sont là. Et très souvent, quand vous mettez le doigt sur le pied, ça s'enfonce et puis ça prend du temps pour reprendre sa place.
Oui.
Là, absolument, il faut aller consulter. Il n'y a pas jugulé à la maison, il n'y a pas fait de la magie à la maison. C'est que plusieurs organes déjà ne marchent plus bien. Donc, on crie encore par rapport à cela, les pieds enflés. Allez voir, allez à l'hôpital pour des consultations et éventuellement pour une bonne prise en charge.
Ces pieds enflés peuvent être la conséquence de certains organes qui ne marchent pas bien. Les organes vitaux comme les reins, comme le foie.
Comme le cœur. Les vaisseaux sanguins, ça ne va plus. Ça veut dire qu'il y a du bouchage et tout ça. Donc, c'est absolument important de consulter.
Ça peut être dû également à des effets secondaires des
médicaments,
prenons. Ou bien qu'un caillot de sang aurait obstrué une artère quelque part.
Tout à fait.
Ou encore, c'est la sédentarité.
La sédentarité, on en parlera, un spécialiste va d'en parler de la sédentarité au bureau. La sédentarité, quand on parle du bureau, ça veut dire vous êtes noir en tant que professionnel. Et puis, la dernière fois, on a fait le dépistage au marché d'Assiéyé.
Oui.
Et d'Aguassiéyé, je veux dire, plusieurs femmes sont en surpoids, sont obèses. Parce que ça s'aille pour vendre, elles se lèvent difficilement. Donc, c'est un problème qui guette tout le monde. Attention, ça peut amener à d'autres conséquences.
Consulter, comme le disait tantôt Basile Anam, plus tôt on se fait diagnostiquer et plus on se donne de chances de guérir. Mais la santé passe également par la mère et l'enfant, n'est-ce pas Estelle?
C'est bien évidemment ça.
Alors nous en venons à votre article de Gazelle Info qui nous parle de la santé maternelle et infantile. Le Togo qui vient de déployer la télé-échographie. Ça veut dire que mes sœurs depuis Haoté peuvent se faire peuvent connaître l'état de leur grossesse par télé-échographie.
C'est justement ça, c'est le projet ambitieux qu'engage actuellement l'État. Donc ça permet de réduire d'abord les risques liés au déplacement pour les femmes enceintes et également les conditions financières qui ne sont pas toujours exhaustives pour atteindre les lieux requis au moment des urgences. Donc le projet est à sa phase pilote, mais c'est déployé sur les 5 régions économiques. Après, un état des lieux sera fait pour voir si la réussite est vraiment à point pour pouvoir élargir en fait le projet sur toutes les petites zones du Togo.
C'est vrai que j'ai suivi le lancement de ce projet de télé-échographie à TVT Radio Le Mai et tous les journaux comme Gazelle Info. Mais est-ce que le projet à ce jour est déjà opérationnel en tous endroits du territoire?
Et incessamment, ça doit l'être. Puisqu'il y a 5 zones qui sont déterminées, une zone par région économique pour déployer très prochainement, les prochains jours, le projet. Donc, ça doit se faire incessamment.
Donc, c'est la phase pilote.
La phase pilote,
bien évidemment. Au bout d'un an, on va évaluer, voir comment
les résultats pour pouvoir éteindre ça à toutes les zones, à tous les hôpitaux du Togo.
Merci. Nous continuons sans transition avec l'actualité sociopolitique numéro 1 depuis le samedi nuit. C'est la recomposition du gouvernement avec les entrées, les sorties, 6 entrées, 5 sorties, si je ne m'abuse, et 3 ministres qui changent de portefeuille. Là-dessus, les journaux reviennent encore aujourd'hui. La Dépêche qui nous annonce, ou bien qui nous rappelle que l'exécutif togolais au jeu des chaises musicales. Pendant que le triangle des enjeux écrit Yark Damehan, Calixte Majulba, Yawa Kuigan, 3 points de suspension, des erreurs de casting ou plutôt des choix stratégiques erronés. C'est ce titre du triangle des enjeux. Pendant que la manchette n'y trouve que du colmatage au saupoutrage, unir vent encore du vent. Sylvestre Kokoubeni.
Oui, en réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que lorsque vous voyez ce qui a été fait, c'est vrai que cela fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux.
Et dans la presse aussi.
Et dans la presse, ça contente certains Togolais. Mais en réalité, il n'a véritablement à espérer ou véritablement rien à voir. Normalement, nous devons circuler parce que lorsque vous prenez ceux qui sont partis, ils ne sont pas si mauvais. Lorsque vous prenez ceux qui sont entrés, ils ne sont pas si mauvais. Dans ce gouvernement, il y a tellement donc, de compétences intrinsèques individuelles. Mais en réalité, c'est le système en soi qui fait que ça ne marche pas. Et peut-être que ça risque de ne pas marcher. Parce que le système est fait en soi que cela ne favorise pas l'éclosion des talents, ne serait-ce que pour tirer donc, le meilleur d'eux. Je donne juste un exemple. Vous prenez l'ancien ministre, l'ancien premier ministre Gilbert Fossoungou. Quand il est arrivé en 2008, il disait qu'en 6 mois, il changerait donc le continent des Togolais. Et puis pour caricaturer un peu, il disait que même le lait, le miel couleront donc de nos robinets. En réalité, il voulait implémenter une certaine dynamique à la gouvernance au Togo. Vous avez vu après donc l'affaissement du pont d'Amakpapé, il était en jogging, il était souvent sur le terrain. Mais à la fin, en 2012, quand il devait parti, c'est une désillusion. Il a presque déchanté parce que il est plein de compétences, de valeurs. Il voulait faire quelque chose, mais il n'a pas quand même cette liberté de le faire. Mais c'est une tête. Et à peine il a quitté donc le gouvernement togolais, il était juste promu. Parce que il a retrouvé donc les services onusiens. Après, il a été élu directeur donc de FIDA. Aujourd'hui, il est élu
de Gilbert Fassou-Rongo au nouveau ministre qui vient d'entrer au gouvernement, aussi bien qu'à ceux qui viennent de sortir. Tu le trouves intrinsèquement de la valeur,
il
ne prospère pas à leur portefeuille.
Justement.
Et la faute, tu l'attribues au système.
C'est au système en soi. C'est-à-dire, le système en soi est conçu de manière à ce que, c'est-à-dire que tu ne peux pas sortir donc ton génie. En réalité, c'est cela. C'est pourquoi tu donnais juste l'exemple de Hugo. On peut en donner. Il y a tellement donc de valeureux hommes qui sont passés.
Et de valeureuses dames.
Et dames. Je parle donc de Eugène Adoboli et tout ça. Des gens qui, véritablement, ont fait évoluer donc le monde ailleurs. Mais une fois revenus dans leur pays, dans le système, ils n'arrivent pas à faire la même chose. Posons la question, pourquoi? Voyez-vous, c'est pourquoi je dis que on peut faire venir ici Mbappé, on peut faire venir ici Neymar, on peut faire venir ici Cristiano Ronaldo et tous, hein, et tout le Bataclan donc de stars que nous connaissons pour jouer dans l'équipe bleue de l'UNIR, ils ne feront rien. Parce que lorsque le système est mauvais, vous pouvez envoyer tellement donc d'hommes valeureux, mais ils ne pourront rien faire. Voyez-vous, c'est cela en réalité. C'est pourquoi je dis, si vous prenez Madame Kugan, c'est une dame qui, véritablement, donc c'est une tête bien faite en réalité.
Et bien pleine aussi.
Et bien pleine aussi. Mais vous prenez d'autres hommes. Mais une fois, vous verrez qu'une fois dans ce système-là, nous allons parler peut-être du juriste Kode Ayewadan. Vous écoutez ce monsieur, c'est bien quoi. Vous avez un jeune très intelligent, si vous voulez, pour me résumer à cela. Mais il est rentré, vous avez vu qu'aujourd'hui, il sort presque par la petite porte. Vous voyez? Donc, c'est le système en soi. On peut faire venir tout le monde.
C'est pas de hasard si les deux noms actuels que tu as cités, c'est Florence Yawa Kugan et Junior Akoda Ayewadan, la nouvelle ministre de la communication, des médias, porte-parole du gouvernement qui vient de succéder à Akoda Ayewadan. Je reviens juste de la passation des charges et le libéral écrit justement sur ce ministère ou bien sur cette nouvelle ministre, Fabri, tu écris, Fornia Simbe repositionne quelques pions de son gouvernement et le cas que tu mets en exergue, c'est Yawa Kugan, la première femme porte-parole du gouvernement Togo.
Oui, quand j'ai regardé dans tout ce qui a été fait pour moi, c'était l'actualité se situait à ce niveau. Concéder à une femme le délicat rôle de porte-parole du gouvernement, je crois que de mémoire de tous les Togolais, c'est la première fois que ça arrive. Et nous avons dit dans cet article que la personne qui a été mise à ce poste-là a quand même fait ses preuves. Sur les questions de la communication, je crois que beaucoup l'ont déjà dit. Elle est restée dans l'ombre pendant longtemps dans la cellule de communication de la présidence de la République. Mais sur le plan politique également, elle a fait ses preuves en affrontant le public, en prenant la parole en public, ce que beaucoup d'hommes politiques n'ont pas fait. Et c'est pour cela que je suis pas d'accord avec mon confrère quand il met tout le monde dans le sac pour dire que tout le monde est bon. Non, tout le monde n'est pas bon.
Ah, selon toi?
Ouais, non, tout le monde n'est pas bon. Ou alors les gens sont bons à des degrés divers. Et en fonction des circonstances, on peut choisir mettre X ou Y. Moi, je crois que c'est pas la longévité au gouvernement, par exemple, qui détermine que tel est compétent ou pas. Il y a des gens qui ont fait un bref passage, mais on retient leur nom. Je prends l'exemple de Anate Koumé Allo, quand on évoque son nom aujourd'hui, c'est celle qui a permis aux pigistes d'avoir un concours pour devenir fonctionnaire. Ça, c'est un élément qu'on retiendra d'elle quand elle partira.
Quand
elle est partie. Et quand on parlera de Ayewadan, moi, je vois la convention collective. Ça, c'est à mettre à son actif. Mais je vois des gens qui ont fait 9-10 ans au gouvernement. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre à l'heure actif. C'est pourquoi moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que tout le monde est bon et que bon, c'est le système. Non. Pour moi, c'est une fuite en avant. Okay. Il y a des gens qui sont bons dans le gouvernement et qui ont fait de bonnes choses, même hors du gouvernement également, parce que un pays, c'est pas seulement dans le gouvernement, on met les bons. Il y a des gens qu'on a parachutés à des ministères, ils sont entourés de bons gens qui ont fait du bon boulot. Donc, pour moi, il y a eu des gens qui ont fait de leur mieux et qui partent avec des résultats qui ne sont pas forcément liés à leur durée dans le gouvernement, mais qui ont su quand même se démarquer par certains actes qu'ils ont pu poser. Quand je prends l'ancien ministre de la Culture qui était issu de l'IFC et qui dirige aujourd'hui un parti politique, Dossé Agnon avait initié un prix. Le ministre de la Culture, il avait initié un prix très intéressant.
Le prix de l'indépendance du Togo.
Oui, pour récompenser les acteurs culturels du Togo. C'est une bonne chose. Mais malheureusement, la suite, on n'a pas perpétué cela. Donc, pour moi...
Il avait également lancé le circuit de la route des esclaves.
Voilà. Et donc, moi, quand on prend tous les...
Il avait également pensé à une mutuelle des artistes.
Des artistes, tout ça, là. Et ça, là, il n'a pas fait 10 ans au gouvernement avant d'avoir ces idées-là. Et donc, on arrête de nous dire que tout le monde est bon. Tout le monde n'est pas bon. Il y a des gens qui ont fait leur preuve, il y en a qui n'ont pas fait. Qui ne l'ont pas fait.
Plutôt que de poser la question, je laisse le seul aux auditeurs d'identifier ceux qui ne sont pas bons ou bien ceux qui n'ont pas été bons au gouvernement. Pour revenir quand même à la semaine de ce jour, Fabrice le disait, Florence Yawakugan a la charge également d'être la porte-parole du gouvernement. Et en la matière, elle vient de succéder à deux. Un porte-parole du gouvernement, Akonda Iwadan et Christian Trimoy, les deux étaient là aujourd'hui. À la passation, il y avait Trimoy, il y avait Iwadan qui ont passé la charge à Kuigan. Donc, et puis c'est là que j'ai découvert que Iwadan a passé 35 mois et 10 jours au gouvernement. Et Iwadan est le 30e ministre de l'information et de la communication selon depuis que le Togo est indépendant. Donc en 63 ans, ce ministère a consommé déjà 30 ministres. Kuigan vient d'inaugurer l'ère de la 31e ministre. Nous verrons à son départ le temps qu'elle aura mis là-bas. Abba Sisaka, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour à tous les autres autrices du canal.
Nous parlons de Kuigan qui vient de prendre la succession de Iwadan, mais il y a également des ministères aussi importants comme la sécurité, où Yark vient de passer le témoin à Caliste Majulba. Il y a l'administration territoriale, avec tous les dossiers lourds là-bas. Quand le colonel Awate Odabalo vient de prendre le fauteuil du doyen grand dinosaure Payada Boupessi, sans oublier les autres, le commerce, la santé, l'accès universel aux soins. Alors selon toi, quel est le ministère ou bien l'ancien ou le nouveau ministre qui est plus inspiré?
Mais celui qui m'a le plus inspiré, bon, il y a tous les ministres qui sont partis, qui sont là, inspirent tout le monde. Parce que à leur prise de fonction, chacun avait une feuille de route à faire. Et c'est pour cela qu'on fait les évaluations chaque 6 mois pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché.
Seulement, nous ne connaissons pas les résultats de l'évaluation.
Et je pense que c'est les résultats de l'évaluation qui viennent de tomber comme ça avec les choses. C'est les résultats de l'évaluation. Parce que nous avons toujours dit ici que tous les ministres ne sont pas au même niveau de fonctionnement. Il y a certains ministères qu'on a qui ne fonctionnent. Il y a certains même qui commettent des erreurs au niveau de leur ministère, mais qui sont toujours notés comme ça. Donc aujourd'hui, c'est les résultats. Aujourd'hui, quand on parle du ministère qui a beaucoup plus marqué. Moi, je dirais que c'est le ministère de la Sécurité, le général Hack.
Oui.
Pendant cette histoire de braquage, tourisme et autres, on voit comment il s'est impliqué. Aujourd'hui, quand elle a dit que lui, il est un général qui tombe à l'eau, c'est un général qui est tombé à l'eau pour se débattre et pouvoir sortir de cette eau-là. Donc, le problème, c'est que.
Mais tomber dans l'eau. C'est-à-dire, tomber à l'eau. Il dit qu'il est tombé dans l'eau.
Les gens disent qu'il est tombé à l'eau.
Mais un bon soldat.
un bon soldat, il va se débattre pour sortir. Il saura comment sortir. Donc, je pense que celui qui a aussi marqué, qui a changé de place, c'est lui. Et au niveau du ministère de l'administration territoriale, il y a aussi des dossiers très sensibles.
La chefferie traditionnelle.
Le foncier même.
Le foncier.
Beaucoup de
le
choses.
Le foncier surtout dont a hérité
Adéjé.
Mais l'autre terrain, l'autre chapitre sur lequel on attend Awaté, c'est les manifestations publiques ou politiques. Les partis politiques qui se plaignent depuis quelque temps que le gouvernement ne leur laisse pas le temps de manifester, même les associations, alors que nous sommes à quelque temps des élections législatives et régionales et que la présidentielle n'est pas loin. Sur ce terrain-là, on va scruter les actes.
Est-ce que vous croyez qu'il va changer?
Non, on va le voir.
Déjà,
alors,
il était préfet de Agoué 1, non, c'est ça?
Agoué-Nivé
1. Donc, il refusait déjà les meetings pour les partis politiques. La NCC est plusieurs fois plein de lui. Donc, on l'a promis. Maintenant, il est encore plus chaud et puis il va même interdire tout.
Il aura des soucis.
Nous verrons, nous jugerons.
C'est un procès d'intention.
Il y a des précédents.
Il y a aussi l'urbanisme. Le ministère de l'urbanisme aussi qui est là. Parce que à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais dont le décret d'application a manqué. Et ça fait que aujourd'hui, les gens ont des problèmes au niveau de l'urbanisme là-bas. Par exemple, même les problèmes fonciers également. Les loyers qu'on a dit qu'on a imposé une certaine limite au niveau du loyer, rien n'a été
respecté dans les ménages.
Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Donc je pense que les nouveaux là qui ont pris vont relever le défi. Au niveau de la communication, Madame Kouigan, on la connaît, elle a fait beaucoup de temps même. Elle maîtrise même la communication. Elle fait 10 ans déjà au niveau de la présidence en tant que
dans la série de communication de la présidente de la République.
Donc, c'est quelqu'un qui est éloquente et qui maîtrise la communication, qui peut mettre au moins son expérience pour que nous puissions sortir de nos problèmes que nous savons. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que nous avons des problèmes depuis. Et ce ministère, vous avez dit que ça fait déjà 30 ministres en 60 ans.
En 63
ans d'indépendance. C'est un ministère dont un ministre vient et à chaque remaniement, on doit faire le remaniement là-bas. À chaque remaniement, on change de ministre. C'est un ministère, depuis que moi, je pense que depuis que le Forn Yassine est arrivé, non, ce n'est pas depuis que je suis là. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de ça, mais depuis que le chef de l'État, Forn Yassine est arrivé, je pense que ce ministère, quand un ministre arrive, c'est qu'au remaniement qui arrive prochain, dans les prochaines années, il doit partir. C'est pour cela que
je pense qu'il va ce qu'il en sera de Florence au prochain remaniement.
Si tu permets, pour aller un peu dans le même sens, c'est-à-dire que parfois, lorsqu'on fait un remaniement où on recompose le gouvernement, il y a des gens qui sortent. Parfois, il y en a qui pensent que c'est une sanction. Ça peut être une sanction ou ça peut être également... Tu peux bien danser, mais on peut te dire aussi à un moment donné, bon, tu as assez bien dansé, peut-être c'est de la classe. Au niveau de la sécurité, c'est 19 sur 20, parce qu'aujourd'hui, quand on prend que ce soit la défense ou la sécurité, quand on prend la question du terrorisme, on a réussi à contenir quand même les terroristes au niveau de la frontière. Je crois qu'on se frotte les mains à ce niveau. Au niveau de l'éducation, aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec les résultats de fin d'année qu'on a eu. Tout le monde est d'accord que nous sommes satisfaits de l'éducation au niveau de notre pays. Mais il y a des ministères où moi je reste sur ma soif. Je ne suis pas satisfait de la télécommunication. Je ne suis pas satisfait de la santé. Je ne suis pas satisfait de la justice. Mais ces ministres sont là. Donc ne me dites pas que ceux qui sont partis sont mauvais.
Non, tu l'as déjà dit. Je voulais demander à Estelle. Nous parlons des nouveaux ministres. Nous parlons de ceux qui sont partis. Alors, est-ce sanction ou bien est-ce qu'ils ont demandé eux-mêmes à se reposer ou bien est-ce que le chef de l'État s'apprête à leur attribuer d'autres charges, d'autres fonctions? On verra. Mais certains ministres qui sont en place, Fabrice a commencé à le dire, notre fameuse économie numérique avec la première ministre qui met un point d'honneur à la digitalisation. Or, les télécoms tels que nous les connaissons, avec Mme Sina Lawson, qui devient de facto la doyenne des ministres au gouvernement avec près de 11, voire 12 ans.
Au côté du jeune doyen.
Elle est là. Il y a également le ministère de l'Agriculture. Il n'y a pas longtemps, nous parlions de
des plans de structuration de notre agriculture, le café qui tombe, le café cacao qui tombe, le soja qui tombe. Le ministre Antoine Lekpa-Gbeni interpellé sur les sujets, et on ne le voit jamais, on ne l'entend jamais, mais il est là. La santé avec Imiji Yawa, avec ce qu'on lui reproche et comment il se défend, et les autres secteurs aussi. Alors Estelle, quelle est l'appréciation que tu fais des ministres qui sont restés?
C'est le système qui le veut ainsi.
Non,
tu as la parole.
Bon, je fais la même remarque comme tout le monde, bien évidemment. Mais malheureusement, je ne peux pas me substituer aujourd'hui au chef de l'État qui est seul à le pouvoir discrétionnaire pour ces nominations-là. S'il s'agissait en fait peut-être d'une élection, on pourrait dire voilà ce qui a milité en faveur de XY. Mais c'est des nominations, seul le chef de l'État a les raisons suffisante de nous dire voilà pourquoi je préfère telle autre à telle personne à telle autre. Maintenant, revenant sur ces différents postes, oui, je remarque, comme je viens de le dire, qu'au niveau des télécommunications, au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, c'est les trois ministères clés surtout qui sèment beaucoup de remous.
Les infrastructures ou les grands chantiers qui sont lancés, soit par le chef de l'État ou bien la première ministre, hein, tarde à être réalisé dans le délai imparti et avec les qualités qu'on en attend.
C'est bien évidemment ça, mais la surprise a été de constater que c'est les ministres qui n'ont pas bougé du tout. Maintenant, est-ce qu'il faut dire que bon, les autres c'est des sanctions ou c'est parce qu'ils ne sont pas compétents? On ne peut pas tout de suite juger la chose de cette manière-là. Comme je le dis, bon, c'est le chef de l'État seul qui sait pourquoi il garde X, il enlève Y et où il préfère telle autre à telle autre personne. Mais les bilans sont là, tout le monde le voit. Qu'au niveau des télécommunications, maintes fois, on en a discuté ici, ça ne va pas, ça ne va toujours pas. Il n'y a pas d'amélioration. Au niveau de l'agriculture, il y a toujours des critiques qui sont en cours. Les problèmes ne sont toujours pas résolus. Mais ils sont là, ils n'ont pas bougé. Donc, on attend de voir bientôt peut-être les élections législatives. Et dans la suite logique des choses, le gouvernement devra changer. On attend de voir ce qu'il en sera au prochain remaniement.
Merci. Nous continuons avec les rentrées.
Oui. Non, c'est-à-dire que lorsque vous prenez le résumé de tout ce que les confrères ont dit, ça revient à ce que je disais au début, c'est le système en soi. Le système est fait ainsi.
C'est oui, que mais vous sauf pouvez, que dans ce système, il y a des gens qui sont bien.
Il y a des gens qui réalisent des choses dans ce système. Non, c'est seulement non, pour relativiser. Non,
c'est trop
dans
facile.
Le même système, c'est il y a des facile. Gens qui font quand même des prouesses.
C'est comme aujourd'hui, quelqu'un voyait les choux à son examen, il dit c'est le système. Non, c'est trop facile. C'est dans ce même système. C'est dans ce même système, les gens
réussissent.
Après 30 ans de ministre,
on sent l'envie de faire au moins.
Avançons avec les rentrées.
Ah, les gens sont nommés à des ministères et on vous a confié un dossier, on dit il y a une feuille de route que tu dois respecter.
Oui.
Ça, c'est au chef de l'État de venir te dire, c'est le système qui va te venir te dire que fais ceci, fais cela.
Justement,
hein? Le problème est là où Sylvain peut avoir raison. Si,
non, que là où j'ai raison.
Abbas, est-ce que le chef de l'État et le Premier ministre, est-ce qu'ils n'évaluent pas leur ministre?
Voilà.
Est-ce qu'eux-mêmes sont satisfaits?
C'est ce qui se dit.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des séminaires d'évaluation qui se font.
Oui.
Et donc, c'est les résultats des évaluations qui sont tombés.
Donc, ça veut dire qu'en réalité,
ne veulent pas travailler.
Bah, on va dire que les résultats sont erronés alors. Puis, s'il y a certains qui sont partis, mais comment
si les gens qualifient. Si nous, l'opinion, nous faisons le constat que tel ministre ne veut pas travailler ou bien ne travaille pas bien.
Mais pourtant, on le garde.
Est-ce que le chef de l'État ne le sait pas aussi?
On lui donne le temps.
Au pire des cas, si tu penses que c'est le système, mec, si tu penses que tu ne peux pas travailler dans le système, tu démissionnes.
Tu démissionnes,
que je ne peux pas.
À défaut que le mauvais ministre quitte le système, celui qui l'a appelé,
est-ce que lui ne le voit pas?
Il a mis là-bas pour travailler.
Lorsque
tu ne peux pas travailler, c'est pas le système. Parfois, il y a Simé qui est venu te dire. Va faire ceci, viens, ne fais pas cela. Il y a une feuille de route qu'on t'a donnée.
Oui.
On t'évalue à partir de cette feuille de route. Mais si tu n'arrives pas à faire, dis que c'est le chef d'État,
entre nous,
le système.
Abbas, tu recrutes des rédacteurs à ta rédaction, à ton journal. Et tu les évalues, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, quand tu n'es pas d'accord avec un rédacteur, tu lui fais quoi?
Je le renvoie.
Ah, ok.
Mais la réalité ici, C'est Faure n'a jamais pris la parole pour dire qu'il y a un ministre qui fait mal. On ne sait pas. C'est lui, c'est nous qui disons que nous ne sommes pas satisfaits. Okay. Nous, en tant que citoyens, nous disons que il y a certains ministères où nous avons la satisfaction.
Oui.
Quand vous prenez l'enseignement, j'ai donné quelques exemples. La sécurité, on en a, c'est pas la pire de la sous-région. Mais il y a des secteurs dans lesquels nous, citoyens, nous disons que nous n'avons pas de résultats. Maintenant, celui qui a nommé, il lui revient de savoir est-ce que c'est le ministre qui est fautif ou il y a un autre problème ailleurs. Mais nous, tout ce que nous constatons, c'est que nous ne sommes pas satisfaits
alors
de notre justice.
Maintenant, quand on dit
que c'est le système, c'est comme dans une classe, on vient, on proclame les résultats, quelqu'un échoue, il dit que l'enseignant a mal enseigné. Alors que dans la même classe, il y a quelqu'un qui a réussi avec une très bonne moyenne. C'est pourquoi moi je dis, c'est trop facile de conclure pour dire, parce qu'il y a aussi des gens qui sortent du gouvernement, ils disent qu'ils voulaient faire, mais on ne lui donne pas, mais on ne lui donne pas l'occasion de faire. Non! Comment les autres font, et ils font, et c'est toi, à toi on ne donne pas l'occasion de faire. Donc pour moi, chacun est responsable du département où il est. Quand ça ne marche pas, qu'il souffre qu'on dise que ça ne va pas.
Merci. Maintenant, nous pouvons aborder les rentrées. Hein. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Ouais. Mais la rentrée diplomatique, qui est quand même une grande nouvelle, une grande première,
ouais.
C'est avec Robert Doucet que nous découvrons cela, les rentrées diplomatiques, avec l'édition cette année 2023, où l'honneur a été fait à l'ancien Premier ministre Joseph Kwaku-Kofi Go de présenter une déclaration liminaire qui a alimenté les débats. Vos journaux reviennent là-dessus aujourd'hui. Bon, j'ai pas eu le temps de faire la revue de presse, mais Abbas, le Manuel Libéral en a parlé.
Oui, nous la rentrée, la rentrée parlementaire, oui, oui. J'ai dit parlementaire, la rentrée diplomatique, mm-hmm. On en a parlé avec l'invité spécial qui était l'ancien Premier ministre Joseph Kwaku-Kofi Go. Et c'était au centre des débats, c'était les transitions
en Afrique,
le rêve de ces transitions, comment ça se passe. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un débat qui a été ouvert là-dessus.
Mm-hmm.
Et puis le ministre Doucet avait dit que c'était un bon thème qui cadrait actuellement avec tout ce qui se passe dans la sous-région ouest africaine. Je pense que c'était un bon panel qui a été bien animé.
Oui.
Les uns les autres ont apporté leur contribution sur ce qui devait se passer, surtout par rapport aux transitions en Afrique, comment les gens restent et comment ces transitions-là arrivent, qu'est-ce qui pousse les gens à opérer des coups d'État et à mettre en place des transitions militaires. Et tout ça a été discuté. Je pense que c'est beaucoup de choses, ils ont dit, que nous avons développées dans le journal.
Comme Gazelle Info également, qui nous parle de cette rentrée diplomatique 2023-2024 effective, et que Togo Matin écrit, lui, que Maître Kofi Go suscite un débat houleux sur les transitions démocratiques. C'est pour dire, Estelle, que la question est d'actualité, et les débats sont souvent surchauffés quand on parle de transition. Les cas d'actualité, c'est la Guinée, c'est le Burkina, c'est le Mali, le Niger et le Gabon.
Oui, le thème concorde bien avec l'actualité. Au niveau de l'Afrique, l'ancien PM a fait un développement magistral de ce thème-là la dernière fois, en analysant de façon générale de la situation. Hein, eu égard de son expérience lui-même, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été l'un des acteurs clés de la transition au Togo entre 91 et 94. Donc, il s'est appesanté.
Et il en a vu des
toutes ces
des
expériences-là, en fait, pour caricaturer un peu la situation. Mais in fine, il conclut que quand on va peut-être opérer un coup d'État, on se dit que c'est la solution qui s'annonce à ce qu'on reproche à celui qui est au pouvoir. Mais parfois, c'est la désillusion. Donc, ce n'est pas forcément une solution au problème que l'Afrique vit actuellement, les coups d'État. Donc, il s'agit de corriger en amont certaines pratiques comme peut-être les mauvaises élections, les trucages dans les urnes et tout ce qui s'ensuit. Bref, les causes de ces coups d'État-là qu'il faut réparer en amont et mettre, actualiser en fait le concept de démocratie même par rapport à nos réalités africaines et pour éviter ces différents coups d'État, vivre paisiblement la démocratie en Afrique.
Alors, dans ces débats, hein, il y a ce nouvel élément que la Manchette partage avec nous, une certaine déclaration de Paris.
où Aguillaume Kodjo mobilise démocrates et panafricanistes. C'est vrai que je n'ai pas encore lu l'article, mais Sylvain, si tu
Il s'agit donc d'un panel organisé du côté donc de Paris avec quelques députés français, des Togolais de la diaspora, quelques panafricanistes, où ils ont justement parlé donc des transitions, de tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et surtout de le cas du Togo avec les élections présidentielles du 22 février 2020. Donc il est revenu un peu avec...
Aguillaume a assisté en personne à ce panel?
En réalité, il était lui en ligne. Il était, il était
quelque part depuis son champ de maïs, il a participé en
ligne. Il y a la connexion dans le champ de maïs.
Au moins depuis son champ de maïs.
Au moins il y a la connexion.
La connexion marche là-bas.
Voilà. Donc là, il a donc ils sont revenus un peu sur cette transition là, tout ce que les coups d'État et tout. Donc il estimait que en réalité c'est presque ce qui s'est passé au Togo le 22 février 2020 mm-hmm. où il parlait donc de coups d'État électoral et tout ça. Et donc voilà, et à la fin il a fait une déclaration du côté donc des pour les démocrates et panafricanistes en demandant donc de regarder également ce qui se passe au Togo pour que cela ne soit un précédent dangereux dans la sous-région avec tout ce qui se passe aujourd'hui.
Merci, on va aller. Alors justement, il y a un auditeur qui dit, quand nous parlions tantôt de recomposition ou bien de remaniement ministériel, l'auditeur relève que Aguillaume aussi, en 2020, s'était autoproclamé vainqueur. Il avait même annoncé la composition de son gouvernement. Alors, est-ce que lui aussi envisagerait un remaniement ministériel
ou bien gouvernemental? Je crois que ici, on a encore la connexion. Peut-être à la sortie de l'émission, on va tenter de le jeter en ligne.
Merci beaucoup, c'est pour la bonne humeur. Alors, de la rentrée diplomatique, passons à la rentrée scolaire. C'est dans moins de 2 semaines. Et je constate que certains confrères qui ont des enfants à l'école primaire commencent pas à perdre leurs cheveux depuis que j'ai repris le micro. Alors cela nous introduit à cet article. Abbas, Le Manuel Libéré écrit « Article scolaire, la stabilité des prix au centre des préoccupations du gouvernement ».
Oui, vous n'êtes pas sans savoir que souvent à la rentrée, c'est le vrai problème, le goulot d'étranglement pour les parents d'élèves, c'est les fournitures scolaires. Mm-hmm. Les prix grimpent et c'est comme c'est sans contrôle. Depuis même la disparition des Limisco, il y a beaucoup de spéculations au niveau des fournitures scolaires. Mm-hmm. Alors, s'il n'y a pas un contrôle là-dessus, c'est que chacun va à ce qu'il veut. Et c'est des
mais c'est la loi du commerce.
C'est la loi du
commerce.
C'est
l'offre et la demande.
Oui, mais il ne faut pas exagérer, outrepasser, parce que la spéculation elle-même est interdite par la loi. C'est pour cela que le ministère du commerce, après son bâton de brûler, il a pu réunir les importateurs et les grossistes
pour leur parler. D'articles scolaires.
D'articles scolaires pour leur parler des prix. Parce qu'on ne peut pas vendre un paquet de cahiers de 100 pages à 1200 qui va jusqu'à aller 1500 ou 1600. Mm-hmm. Donc, c'est de la spéculation pure et dure. Et c'est pour cela que le ministère a dit, il les a rencontrés, il leur a dit que de prendre ça, de vendre ça au prix, c'est 1200 francs, c'est 1200. Mm-hmm. De ne pas aller jusqu'à 1500 francs. Ils ont évoqué les importateurs ont évoqué quelques problèmes, soulevé quelques problèmes, et le ministère a dit que ça va être réglé. Mm-hmm. Donc il ne faut pas, parce que depuis lundi, même il y a eu des descentes sur le terrain pour contrôler au niveau des grossistes ou bien des vendeurs de cahiers, des fournitures scolaires, pour voir à quel prix ils sont en train de vendre. Parce qu'il faut aussi soulager la souffrance des parents qui, au moment où on parle de la gratuité même des scolarités
dans les écoles publiques,
mm-hmm. on va encore leur demander de payer un peu plus au niveau des cahiers. Or, dans les écoles privées, les fondateurs se permettent d'augmenter, de mettre le prix sur les frais scolaires.
L'inscription, les frais d'écolage, nous en avons parlé il n'y a pas longtemps. Alors, cette stabilisation des prix des articles scolaires, c'est vraiment opportun et important parce que il y a les parents d'élèves qui font face aux spéculations qu'entretiennent les promoteurs d'écoles privées pour l'inscription et l'écolage. Et puis, il y a la même spéculation, c'est également certaines écoles privées qui allongent démesurément la liste des fournitures. Je crois savoir, si ma mémoire est bonne, qu'un temps, le ministère de l'Enseignement
avait harmonisé
également la liste des artistes scolaires à recommander aux élèves, Fabrice.
Oui, pour chaque classe, je crois que c'est quand même une liste qui a circulé dans presque tous les établissements et cela a été mis à la disposition de presque tous les parents d'élèves. Bon, maintenant, en ce qui concerne le coût des cahiers, c'est vrai, peut-être qu'il y a une qualité moyenne qui peut être à la disposition de tout le monde. Sinon, comme on le dira, le tri à cahier dans cahier. Il y a aussi des cahiers, quand vous les regardez, de par leur qualité, vous comprenez que ça ne peut pas se vendre au même prix que les autres. Ça aussi, il y a. Bon, ça, c'est une question de luxe. Mais je comprends que sur la qualité moyenne, à la portée de tout le monde, il faudra faire l'effort de stabiliser les prix et éviter effectivement cette spéculation qui a déjà lieu au niveau des frais de scolarité, surtout dans le privé et autres. De façon globale, on se rend tout simplement compte que, contrairement à il y a, je sais pas, 40, 50 ans où l'école était presque gratuite, avec, le rôle que les missionnaires ont joué, quand je prends l'église catholique, quand je prends l'église protestante, où l'école était pratiquement gratuite, les fournitures parfois mises à la disposition. D'ailleurs, on voulait juste que vous alliez à l'école. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, à l'allure où vont les choses, dans 5-10 ans, l'école risque d'être un luxe pour certains. Il y a beaucoup d'enfants qui risquent de rester sur le carreau parce que l'école publique est pleine à craquer et le privé ne sera pas accessible à tout le monde. Les fournitures scolaires qui sont très élevées. Et aujourd'hui, banalement, si vous descendez les chiffres, vous n'êtes pas loin de mettre pas moins minimum 500 000 pour un enfant à l'école. Donc, pour ceux qui sont dans... pour la procréation aussi, il faut tenir compte. Nous ne sommes pas nombreux au Togo, mais chacun individuellement a ses problèmes. Donc, il faudra aussi que tout le monde prenne ses dispositions.
Merci beaucoup.
Mais je crois qu'il faut anticiper certaines choses, voyant l'avenir, effectivement. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que l'école est devenue aussi beaucoup plus mercantile. C'est-à-dire, plus le niveau baisse, mais on trouve des moyens pour soutirer des sous aux parents. Finalement, tu te rends compte que tu sors de l'argent, mais la qualité de l'enseignement ne suit pas forcément. Mon confrère parlait tout à l'heure des missionnaires par rapport au passé, dans les années 60 et autres, avec les missionnaires. C'est vrai, on ne demandait pas grand-chose. Inscrivez vos enfants. Mais quand ils sortent, tu sais que oui, tu as une tête bien faite, une tête pleine. La qualité de l'éducation va avec. Mais aujourd'hui, on met tous les moyens en place juste pour avoir plus de sous. Mais on néglige un peu cet aspect qualité de l'enseignement. Et il faut qu'on réfléchisse vraiment sur cet aspect-là pour qu'on ait vraiment des têtes bien faites et pleines à l'avenir.
On peut en débattre parce que de l'autre côté, les résultats aux examens officiels
sont toujours
positifs d'année en année.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce que du moins la moyenne est la même? Non, entre-temps, vous prenez le BPC, c'était à 150. Mais aujourd'hui, ils sont descendus jusqu'à 135, je crois.
Quelque chose comme ça.
Ils sont descendus au moment où les gens font le plein.
Vous voyez? Donc, le CPD, c'était 70 à l'époque, mais aujourd'hui, c'est en deçà. Vous voyez donc que tous ces éléments-là...
C'est curieux quand un élève est noté sur note à un examen. Voilà, il y a quelque chose qui m'a surpris la dernière fois. Oui. L'enfant pratiquement 19, 98 ou quelque chose, ne figure pas dans les 10 premiers du centre. Bon, c'est un peu curieux. Moi, j'ai juste envie de comprendre comment est-ce que ça se fait. Non, c'est pas quel...
Il y a des gens qui ont 100%.
Oui, mais...
Moi, ce qui m'a intrigué, l'élève que j'ai été... L'enseignant que j'ai été et le parent d'élève que je suis, quand à un examen officiel au BPC, on nous dit que une candidate a une moyenne supérieure
à la moyenne requise.
Quelqu'un a 21,20.
Comment expliquez-vous ça? Je comprends pas.
Enseigner un peu.
Oui, bon, ça voudrait. Ça, en fait, je crois que quand vous prenez en fait, la rigueur qu'il y avait à une certaine époque, à un moment donné, on a revu. C'est comme à une certaine époque, quand vous prenez les notes dans le système français en France, on va vous dire que les gens ont 18 en philo, 19 en philo. C'était scandaleux, nous, de notre côté, parce qu'à l'époque, on te donne 12, on lit ta copie dans toutes les classes. Oui. Et donc, à un moment donné, je crois qu'il y a cette rigueur-là qu'on a baissé un peu, parce que effectivement aussi on a fait du mal à des gens, il faut aussi le reconnaître. C'est-à-dire que
par l'excès de rigueur.
Par l'excès de rigueur, on a fait du mal à des gens, qui auraient pu peut-être faire plus que ce qu'ils ont fait.
Les trains de 9h, 6h,
on dit arrêter. Je crois qu'aujourd'hui, et quand vous prenez, c'est pas que le niveau baisse totalement, mais autant il y a beaucoup de cancre, il y a également de très bons élèves. Ça aussi, il faut le reconnaître. Il y a de très bons élèves. Et aujourd'hui, pour être parmi les meilleurs, il faut vraiment mettre la barre très, très, très haute. Comme on le dit, les gens ont notre surnote, enfin, au-delà de la moyenne. Pourquoi? Il y a des points bonus. Ça voudrait dire que s'il a plus 10, je sais pas, au niveau des matières facultatives, et il se tape note sur note, donc il est bien parti pour avoir plus que la moyenne totale. Maintenant, dans la pratique, est-ce que ces moyennes-là que nous avons cadrent avec les compétences que les gens ont? Moi, je dirais non. Parce que tous ces enfants-là, c'est quoi le suivi? Vous allez voir, on vous affiche. À l'université, ça donne quoi? Tous ces génies qu'on nous brandit à chaque examen, il faudra faire peut-être le suivi. Par exemple, quand je prends la belle initiative de l'honorable Abira Bonfo, qui récompense les filles
avec sa fondation.
Je crois qu'à un moment donné aussi, il faudra voir celle qui a eu 5 millions l'année passée, qu'est-ce qu'elle est devenue? Quelle a été sa performance scolaire pour la classe de seconde jusqu'en terminale et tout cela. Tout ça là, il faut vérifier, parce qu'effectivement on a des moyennes flatteuses, mais c'est des enfants que vous allez malheureusement au niveau des grandes études, parfois ils ne répondent pas toujours. C'est là où il faut exactement se poser des problèmes pour voir est-ce que ces moyennes là cadrent effectivement avec les compétences. Mais il y a beaucoup d'avantages aujourd'hui. Il y a beaucoup d'avantages aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de parcourir toutes les bibliothèques de la ville. C'est-à-dire, ils ont des moyens. S'ils veulent un livre, ils peuvent le lire là où il est. Et les gens également, on vous brandit des enfants comme des génies. Des gens, jusqu'en classe de terminale, ont des répétiteurs. Et au même moment, on vous dit qu'ils sont des génies. Bon, drôle de génie, parce que on a connu des gens, ni le père ni la mère ne sait lire. C'est lui seul qui était capable de dire à ses parents, j'ai réussi, ou il parle mal français, il y a personne pour le corriger, mais les gens ont réussi dans ces conditions. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui sont bien entourés, leur objectif, c'est d'étudier. Tu prends un enfant jusqu'en terminale, le rôle dans la maison, c'est les études seulement. Il fait rien à part cela. Avec tous les répétiteurs dans toutes les matières. Et vous pensez que si vous aviez eu les mêmes conditions, vous aurez eu les mêmes moyens? Non, il y a ça aussi.
C'est un débat d'actualité. Mais on va terminer avec l'Office togolais des recettes, qui a tenu une activité en interne et sur lesquelles les médias sont revenus, comme Gazelle Info, bien d'autres. Hein. Il s'était agi d'un séminaire d'orientation de l'OTR. Le commissaire général avec ses collaborateurs pour faire l'évaluation de l'année. Et c'est de là qu'est sorti que à fin août 2023, l'OTR a pu mobiliser 648 milliards, hein, 648,8 milliards de francs CFA de recettes, ce qui fait soit 11% sur ce qui est attendu de l'Office pour toute l'année. Est-ce qu'il y a un petit mot là-dessus?
Oui, c'est qu'ils ont, ils sont au-delà de 100% pour les objectifs fixés en amont.
Autant les gens ont plus de 20 sur 20 au BPC, l'OTR aussi.
Au-delà de 100%, autour de 110% par rapport aux prévisions. Donc oui, l'OTR continue de faire les mobilisations des recettes pour le redéploiement sur les besoins du pays. Donc que le civisme fiscal continue de nous animer. Ça n'a jamais été facile de payer les impôts, mais c'est un devoir, nous devons le reconnaître et contribuer à la construction du pays à travers les impôts.
Fabrice, que l'OTR met un point d'honneur à la digitalisation, ouais, et autres pratiques innovantes pour limiter au maximum les fraudes.
Oui, au-delà de cela, il y a également un élément fondamental que parfois les gens ignorent. La sensibilisation et la communication. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'OTR communique beaucoup et fait beaucoup de la pédagogie. C'est-à-dire que ce n'est plus cette manière forcée d'aller fermer les boutiques, fermer pour non-paiement d'impôts ou parfois ça traumatise les gens dans leur quartier et tout cela aujourd'hui. Ils ont créé quand même des conditions où les gens n'ont plus peur de l'argent des impôts, où les discussions sont beaucoup plus. Ils ont, c'est la société ou du moins c'est la structure qui a plus de médias partenaires. Parfois les gens pensent que c'est de la simple complaisance, mais je crois que le commissaire général a compris le rôle de la communication dans cette bataille-là. Parce que l'OTR, vous allez vous rendre compte que même en période de Covid où tout le monde a maigri, l'OTR a continué toujours par avoir des recettes comme ils l'ont souhaité. Et donc ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. La sensibilisation est faite, les gens commencent par comprendre. Parce que, particulièrement pour notre pays, la question de l'impôt, je crois qu'à un moment donné, il y a eu une volonté politique qui n'était pas la meilleure. Lorsque Yadema a décidé d'exonérer les impôts pour... ce n'était pas vraiment la meilleure manière et on est resté dans cette situation. Et à un moment donné, les gens ont pensé que c'est une manière... afin de mettre la pression aux gens leur demandant de payer les impôts. Mais progressivement, je crois qu'avec la sensibilisation et la pédagogie, les gens ont fini par comprendre que c'est un devoir de payer les impôts. Les gens vont volontairement payer. Et ça voudrait dire que le civisme fiscal, cette politique-là, commence
à... Je me rappelle, c'était en 1977, après cette grande famine que le Togo avait connue, et Yadema avait annoncé que les pays, la population était exonérée de la taxe civile pour un an. Et c'est devenu un piège pour lui-même.
Oui.
Passé l'année, il n'a jamais eu le courage politique de le relancer. D'ailleurs, des mains à fort, on constate que...
Alors que quand vous prenez le premier président, lui, il ne voulait que compter sur les impôts
oui.
pour développer le Togo.
Mm-hmm.
Eu égard à toutes les études qu'il y a fait, c'est difficile de dire qu'on vous exonère, puisque c'est avec les impôts qu'on développe. Aujourd'hui, nous avons la décentralisation. Sans l'imposition, ça va être difficile que nos mairies fonctionnent comme il se doit et produisent les résultats.
Beaucoup de courage au président qui va relancer la taxe civique pour tous les citoyens. Ce sera une décision politique. Espérons qu'il le fasse. Avec la promesse seulement que les Togolais soient rassurés de l'utilisation judicieuse de leurs taxes et impôts. Il est midi, passé de 3-4 minutes, toutes nos excuses. Nous marquons à présent notre pause. Le temps de nous brancher sur vous dans un moment.
93.5 Canal FM.
Le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75, nous sommes en place pour recueillir vos commentaires, vos questions sur les sujets que nous avons débattus. Déjà, premier auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Oui, c'est Ali.
Ali.
Oui, merci pour le débat.
Merci.
Mais un constat, vu et constaté sur TVT.
Mm-hmm.
Nos amis journalistes qui sont là-bas voient leur talent se tuer. Parce qu'ils font du griotisme et la hack laisse ça. Dans les articles de journal, chaque 20 heures, on nous sert de... Je ne sais comment l'expliquer. Le
Ali,
mensonge.
Ali, s'il vous plaît.
Écoutez ceci.
Non, Ali, c'est nous qui
faisons la... Tout ce que nous avons
Ali, s'il vous plaît, le débat, oui. c'est sur ce que nous disons au club de la presse, s'il vous plaît.
Mais la TVT ne fait pas partie du Togo?
Nous ne parlons pas du Togo, nous ne parlons pas des médias, nous parlons des sujets que nous avons débattus au Togo. Si vous avez des remarques, s'il vous plaît, Ali, si vous avez des remarques à faire à la TVT, vous connaissez le siège, vous pouvez leur écrire, vous pouvez vous déplacer pour leur faire des observations. Nous avons la confraternité dans nos gènes, s'il vous plaît.
Bien compris.
Ok, merci beaucoup.
Le deuxième parti.
Oui.
Les policiers, nous les avons habillés pour nous sécuriser et non pour nous voler. Écoutez, commissariat Capitole, à Corée-Sewa.
Oui.
Déclaration de perte, c'est 500 timbres de 500 mètres sur 100 mètres. Ils prennent 2000 et 3000. Comment on appelle ça?
Alors, vous-même, vous, entre nous, Ali.
Moi, j'ai donné l'argent.
S'il vous plaît, Ali. Ali, s'il vous plaît, c'est un débat. Alors, si on vous donne un timbre de 500 et que vous-même vous donnez 2000, est-ce que vous n'êtes pas au moins complice de cette corruption?
Je dis, après, ils m'ont demandé, j'ai donné, et après avoir reçu le résultat que j'ai vu ça, et j'ai réclamé.
Oui, et la suite?
Et j'ai réclamé.
Et ils ont dit quoi?
Ils m'ont dit que c'est comme ça, c'est une pratique ordinaire qu'ils font là-bas.
Et vous avez fait quoi?
Mais moi, je leur ai dit clairement que c'est pas normal.
Mais voilà, des fois aussi, nous nous faisons complices de ce qui nous arrive.
Complices comment?
Si, allez, s'il vous plaît. Voilà, vous venez de vous faire escroquer en direct et vous quittez là-bas et vous voulez vous plaindre au club de la presse. Vous aurez, c'est là que vous aurez pu montrer que vous êtes citoyen, connaisseur de vos droits.
Je te dis que j'ai réclamé, on me dit ensemble là-bas, avec les policiers qui sont là-bas, m'ont dit que c'est une pratique ordinaire.
Mais vous êtes parti.
Maintenant, je vais faire quoi là-bas?
Ce que vous faites ici, c'est là que vous avez dû le faire.
Aussi, j'ai fait ta page là-bas. Mais ils sont sortis, me disent qu'on est pratique ordinaire.
Ali. Le garçon que vous jouez ici au club de la presse, c'est là-bas que vous auriez dû le faire et les policiers ne vous auraient rien fait. Merci beaucoup, Ali. Il y a d'autres auditeurs qui attendent en ligne. Bonjour. Ok. Oui, Fabrice, c'est important ça. Hein? Le citoyen doit connaître ses droits et l'exercer au moment où il faut.
Je crois que quand vous connaissez vos droits, vous êtes droit dans vos bottes. Hein? Il faut, comme le dirait quelqu'un, il faut avoir son droit au bout des doigts.
Merci beaucoup. L'auditeur qui est en ligne, bonjour.
Bonjour, mon directeur Sass.
Papa Sibeti.
Ah, c'est pour te dire bonne arrivée. Sinon, il n'y a rien de spécial. En ce qui concerne les nominations, là, le président, il sait pourquoi il fait ça.
Oui, nous l'avons dit. Et
moi, à mon niveau, que les gens veulent me pardonner, c'est une sanction. Si nous sommes ensemble et que certains partent et d'autres restent, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça, c'est... En tant que directeur, répondez-moi. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Papa Sibeti, votre problème d'inondation, là, c'est réglé? Ok, il est parti. Oui, l'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Monsieur Bekemsi. Hein.
Monsieur Bekemsi, depuis Sokodé, c'est ça?
Oui, Bekemsi, depuis Sokodé.
Eh bien, nous vous écoutons.
Je vous remercie pour l'émission.
Je vous en prie.
Oui, oui. J'aimerais vous dire d'abord le merci pour l'émission.
Je vous en prie, monsieur Bekemsi.
Chaque fois que vous parlez de l'agriculture, ça m'interpelle parce que je suis agriculteur entrepreneur agricole. Le ministre de l'agriculture, franchement, depuis qu'il est ministre, moi je l'ai toujours dit, c'est quand le Japon a donné le riz au Togo que le ministre de l'agriculture l'a vu. En dehors de ça, le ministre de l'agriculture, c'est comme lui, il est, je ne sais pas, il est obscur, on ne le voit pas où, comment. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? À ce niveau, moi, quelquefois, je m'interroge sur le fonctionnement de nos députés. Parce que ces personnes, lorsqu'ils ont besoin de l'argent pour travailler, on le dit, quand on fait le projet de loi, de finance, on voit l'Assemblée nationale. Ils rendent compte à qui? Est-ce que les ministres et les députés là qui sont là, les députés, si ils sont là, ils font quoi? Eux-mêmes, ils font le même constat que nous ou comment? On ne peut pas interpeller le ministre pour voir comment est-ce que le fonctionnement se passe. C'est là où je demande à nos députés. Ces ministres, véritablement, ils doivent rendre compte au chef de l'État. Mais ils ont l'obligation d'exécuter leur feu de route.
Merci.
Et je suis sûr que leur feu de route n'est pas connu par le chef de l'État. Les députés aussi, en temps normal, doivent connaître leur feu de route. Et ils doivent les juger en fonction de ça. Et c'est aux députés de nous rendre mieux. Comment l'appelle-t-on? Les résultats de ce qu'ils font là-bas. Maintenant, si je peux revenir un tout petit peu sur l'intervention de notre ami qui est de la police.
Oui.
Moi, je suis contre lui. Moi, peut-être que je serais d'accord si c'est pour juste dire qu'il veut informer l'opinion publique. D'accord. Mais venir se plaindre, je ne suis pas d'accord.
Merci beaucoup.
Quand
merci.
Tu connais quelque chose, tu fais valoir ça.
Merci.
Et c'est ce qu'il aurait fait là-bas. Le résultat qu'il aurait obtenu là-bas. C'est ça qui devait donner sur les antennes pour dire que si quelqu'un est victime de la chose ailleurs, c'est voilà ce qu'il doit faire.
Voilà.
Mais tous les officiers qui sont là-bas, ils ont fait ça. Mais le commissaire, lui, il est où? Il faut aller chez le commissaire se plaindre.
Merci, monsieur Pekemsi.
Si tu ne t'entends pas avec le commissaire lui-même,
merci, monsieur Pekemsi. C'est ce que Fabrice a résumé. Hein. Le bon citoyen doit avoir ses droits au bout des doigts et savoir les réclamer là où il faut. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui.
Monsieur Sass, non?
Oui, c'est Monsieur Sass. Et vous, c'est Monsieur?
Je n'arrive pas à vous capter. Moi, je vous appelle depuis Bafilo de la radio Sama FM, comme profiter, mais après leur reprise, on n'arrive pas à les capter pour au moins jouir de nommer. Et ils n'ont qu'à nous dire aussi. Quand on a pris goût à écouter Club de la Presse.
Oui.
Je suis venu vous dire depuis Bafilo.
Mais alors, alors l'ami, dites-nous, est-ce qu'il y a une radio à Bafilo?
Il y a une radio à Bafilo, mais qui ne travaille pas, qui n'arrive pas à nous donner les informations sur le Club de la Presse.
Ok, nous allons contacter nos amis de Radio Bafilo et pourquoi pas arranger un partenariat pour que ce soit relayé là-bas. La Voix d'Assoli. Eh bien, nous allons entrer en contact avec nos amis de La Voix d'Assoli pour voir comment le Club de la Presse peut être relayé dans la Soli. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, sauf bonjour.
Oui.
Bonjour.
Alléluia.
Non. Comment vous allez?
Nous rendons grâce à Dieu.
Bon, je vais vous intéresser un peu à le problème de Houtière.
Oui.
À mon père, à mon grand-père, Tobien. Et ma tête, je vais tout à l'heure qu'en fait, où ils ont fait 600 et quelques milliards. Bon, monsieur Sass, je voudrais quand même vous parler du port, parce que moi-même, je suis déclaré en douane.
Excusez-moi, la qualité, c'est pas très bien. Nous avons du mal à bien vous
écouter. Non, ça va aller.
Non, c'est moi-même, je ne vous reçois pas très bien. Alors,
non, ça va.
Je dis, à mon niveau, je ne vous reçois pas bien. Et je présume que c'est comme ça également au niveau des auditeurs. Si on ne vous écoute pas bien...
Non, c'est la ligne, mais là, ça va un peu.
Ok, allez-y, on va voir.
Voilà. Donc, je disais que, prenons par exemple, un jeune au port, un jeune qui peut... Tu veux faire sortir, tu vas payer 3 euros. Je dis 3 euros. Ça coûte.
Non, je suis désolé. Je suis... L'ami Senghor, vraiment, nous n'arrivons pas à bien vous recevoir. Je ne sais pas si vous êtes en mouvement. On va. Peut-être qu'il va revenir, mais en attendant, nous recevons celui qui est en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Armand.
Armand, oui.
Bonjour, le plateau.
Bonjour à vous aussi.
Il faut dire que. Par un de ces quatre, j'avais dit que les ministres sont des serviteurs. Et c'est vrai qu'ils sont en train de mettre en place la politique du chef de l'État. Mais le chef de l'État, en nommant quelqu'un, a une certaine conscience de ce que la personne va prendre comme initiative. Maintenant, s'il faut encore attendre que les instructions viennent du chef de l'État, pourquoi on vous a nommé alors à ce poste? Il faut que les gens puissent être, bon, je ne sais pas comment dire, courageux et audacieux. Mm-hmm. Il faut prendre des décisions et les assumer. Après, vous allez mettre, laisser votre impact, vos empreintes là-dessus, et l'histoire vous le reconnaîtra. Mm-hmm. Maintenant, les gens disent non, les gens ne veulent pas prendre des initiatives, et après ils disent que non, le système n'est pas bon, mais il faut arrêter ça. Merci.
Merci beaucoup. Le temps de prendre un dernier auditeur. Ou bien c'est fini, la technique. Oh. Un dernier auditeur, il ou elle est à Lille. Bonjour.
Salam alaikum, monsieur Sass.
Ah, monsieur Waris.
Oh, monsieur Sass, c'est pour vous saluer seulement.
Merci, c'est gentil.
Vous dire merci pour tout ce que vous nous faites.
Merci.
Et profiter de l'occasion pour dire au président de la République de revoir votre situation, l'aide d'État à la presse. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Nous avons ici le président de l'OTM. Nous avons le secrétaire général de PPT. Avec les amis du CONAP, de l'URATEL, de Saint-Gite, de quoi? Atopel, Opel, Mercedes et consorts. On prendra attache avec la ministre Cuigan pour engager les négociations dans ce sens. Estelle, une minute pour faire un tour de table avec un carton, enfin, un carton au bout, pourquoi pas?
Non, j'ai pas grand-chose. Juste remercier les auditeurs et les auditrices pour leur écoute et leur critique aussi, parfois qui nous permettent de mieux faire. Et pour le carton, je donne un carton vert à tous les membres du gouvernement qui savent qu'ils travaillent eux-mêmes bien.
Et ceux qui savent qu'ils ne travaillent pas bien.
J'ai parlé.
Fabrice.
Non, moi je vais juste faire un commentaire sur la politique du genre qui est une bonne politique, mais qu'il faudra mettre la différence entre la politique de genre et la complaisance, surtout quand on est sur le terrain du savoir. Il y a une situation pour le concours au niveau des lycées scientifiques où pratiquement les garçons, dans la logique d'aider les jeunes filles, ne sont pas pratiquement logés à la même enseigne. On a l'impression qu'on demande plus aux garçons qu'aux filles. Et moi, je me dis que quand c'est comme ça, c'est que ça va nous rattraper plus tard. Mm-hmm. Alors, si on fait le concours, il y a des filles très méritantes. Si on fait le concours et que c'est une seule fille qui mérite, qu'on accepte que c'est une seule fille qui mérite d'être cette année au lycée scientifique. Et non, faire tomber des garçons qui ont des moyennes de 15 et aller repêcher des filles qui ont des moyennes de 12 parce qu'on se dit qu'il faut donner la chance à la jeune fille. Cette manière de promouvoir le genre, pour moi, c'est une mauvaise politique qui nous risque de nous rattraper plus tard.
Que le genre n'est pas que féminin.
Merci. C'est un débat, effectivement. Ben, nous continuons avec le tour. Abbas Issaka.
Oui, je pense qu'il faut saluer le travail qu'ils sont en train d'effectuer les forces de sécurité dans cette opération feu tricolore et appeler les uns les autres à être en règle et ne pas chercher, parce que c'est notre vie qu'on protège. J'ai fait le constat que lorsque les gens ne voient pas les forces de sécurité, ils ne mettent pas leur casque. Ils continuent de violer les feux tricolores. Je pense qu'il faut arrêter tout ça parce que le gouvernement ou le ministère de la Sécurité ne peut pas initier cette pratique contre nous. C'est pour notre sécurité, donc il faut qu'on respecte. Et je vais en même temps donner le carton rouge pour ceux-là qui, je les appelle les récalcitrants, qui ne veulent pas porter le casque et qui portent le casque lorsqu'ils aperçoivent le policier et qui continuent aussi de violer les feux tricolores.
Abbas, c'est une question de culture et de conscience civique et citoyenne. Si tu es conscient de toi-même, ce n'est pas pour le policier que tu vas porter le casque, ce n'est pas pour le policier que tu vas respecter le feu tricolore, mais pour toi-même et les autres usagers de la route. Sylvestre Kokoubeni.
Non, moi je voulais en fait féliciter le directeur des cultes qui a pris une décision concernant donc les églises qui font tellement donc qui make noise quoi, qui font tellement donc du bruit en semaine. Je crois que c'est une très bonne décision. Parce que vous revenez à midi et qu'il y a quatre personnes derrière dans un enclos là-bas, ils font tellement de bruit, on dirait que c'est 1000 personnes réunies. Maintenant, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a la loi. Si vous faites trop de bruit à midi et tout ça, vous allez rencontrer garçon. C'est le directeur des cultes qui sera là. Je crois que c'est une très bonne décision. Sinon, maintenant, ça devient du n'importe quoi. Il n'y a plus des heures de prière, que ce soit tôt le matin à 1h, à midi, à 11h, armée de midi, fire, force d'intervention, des trucs bizarres, excusez-moi, mais parfois, il faudrait quand même qu'on puisse réglementer cela. Nous sommes dans une république et c'est fait. Et pour finir, je suis en train donc de fouiller la Bible ce matin et je vais leur donner donc le Matthieu 6, versets 7 et 8 qui a lié cela. Ils verront qu'en réalité, Dieu n'a pas demandé à ce qu'on... ce n'est pas à force donc de parole que leurs prières seront exaucées.
Merci. Tu dis Matthieu?
Matthieu 6, 7 et 8.
Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8. Oui.
Le 7, il dit, ce n'est pas à force de prier que votre prière sera exaucée. Et le 8, il dit, avant même que vous ne demandez, c'est votre Dieu sait donc votre besoin. Inutile de crier pour gêner donc les autres. Quoi.
Merci pour rappeler que l'État togolais, hein, la République du Togo reconnaît la liberté de culte, mais en même temps, le Togo est une république laïque, hein, qui n'est soumise qu'à ses lois. et que chacun devrait se soumettre à cette loi-là et respecter la liberté de l'autre. J'ai eu plaisir à animer cette émission avec vous. Je voudrais saluer une grande charmante dame.
Comme toujours.
10 minutes avant que vous arriviez, elle s'est déplacée pour venir me saluer et me souhaiter bonne émission pour moi et pour vous. Elle se connaît, c'est à elle que j'adresse ce carton. Si je dis carton de cœur, ma femme va être jalouse. Je dis carton vert tout simplement pour être anonyme comme vous tous. En comptant sur
l'émission. Dans tous les cas, tu l'as dit.